on était resté sur la quantité. C'est pas commode à saisir, au point de vue de l'être, ce qu'apporte la quantité. Il y a la cause matérielle, la substance selon la matière, qui est le sujet, et cette substance selon la matière est mesurable. La quantité apporte à la matière l'extension, le mesurable, ce qu'on peut mesurer. La cause matérielle échappe à la mesure. Il faut la saisir intellectuellement comme pure puissance. Mais le monde matériel et notre corps, qui fait partie du monde matériel, qui est l'aspect principal du monde matériel. Notre corps est mesurable. On peut peser notre corps. Et on le fait tout simplement. Chaque fois que vous pesez, dites bien, c'est mon corps, hein. C'est pas ma substance. Et c'est curieux, ça apporte le mesurable, le divisible, ce qui est capable d'être mesuré, cette capacité d'être mesuré. Et évidemment, c'est quelque chose de très grand, de très visible, la quantité. C'est par là que la matière est mesurable, c'est par là qu'elle est visible, c'est par là qu'on peut la peser, qu'on peut la mesurer, qu'on peut la tailler. C'est par là que l'homme peut user de la matière. C'est grâce à la quantité. La matière est mesurable. Alors cherchez en quoi et pourquoi. C'est qu'il y a, en plus du point de vue matériel, la matière est au niveau de l'être. La mesure, c'est l'être capable d'être manipulé par l'homme. Vous ne pouvez manipuler la matière que grâce à la quantité. Donc, il y a comme une espèce de métaxu, un intermédiaire entre la substance et la qualité, entre la substance et la qualité, il y a la matière. La matière, vous n'assistez jamais à l'état pur. Vous l'assistez toujours par les sensibles qui ne sont pas la matière. Et c'est pour ça que dans les sensibles, il y a des sensibles qui sont liés à la matière, et puis des sensibles qui ne sont des sensibles plus subtils, qui sont liés encore à la matière, mais qui ne sont pas l'expression de la matière, qui sont liées aux qualités. C'est déjà une qualité, le sensible. Ce n'est pas la matière. Mais c'est sûr que vous saisissez la matière toujours par le sensible. Vous n'avez pas de connaissance directe de la matière. Vous n'avez jamais vu un être purement matériel, ce serait affolant. Rien. Ce serait vraiment affolant. Il y a l'imagination qui imagine une matière qui ne soit plus sensible et qui soit uniquement mesurable. Parce que la sensibilité, les qualités sensibles font que la matière nous échappe. La matière prend son indépendance par rapport à nous, si j'ose dire, grâce au sensible. Si la matière pouvait exister sans les sensibles, elle serait toute ordonnée à l'homme, puisque ce serait la mesure qui l'acturait. Or, la mesure actue bien la matière sensible, mais la matière est actuée avant par les qualités sensibles. C'est pour ça que vous avez une connaissance de la matière qui n'est pas directe. Quand vous pesez quelque chose, des haltères, c'est lourd. Et vous dites, c'est lourd. Quand vous pesez au contraire un ballon, c'est léger. Vous avez deux sens extrêmes de la matière. La légèreté, c'est une qualité de la matière aérienne. J'ajoute aérienne. Et le poids, une pierre, c'est la matière lourde, pesante, qui vous échappe par son poids. Une montagne, ça vous échappe complètement. Vous ne la faites pas ce que vous voulez, elle s'impose à vous. Et c'est la matière, un plus petit que vous, au point de vue de l'être, un plus petit que vous. Mais ce plus petit que nous, que l'homme, s'impose à l'homme. Et ça s'impose à l'homme parce que c'est une matière lourde, une matière terrestre, la pierre, la montagne. C'est curieux. Ce sens qu'on a de la matière, voyez, un ballon de foot, c'est de la matière, mais aérienne, on le gonfle, et puis une pierre, vous ne touchez pas directement la matière. Vous n'avez jamais touché directement la matière. La matière s'impose à nous, toujours par le sensible. Je le pose à partir des qualités sensibles, lourd, léger. Et vous voyez bien que lourd et léger, ça fait deux matières tout à fait différentes. Et c'est toujours la matière. Quelqu'un qui pèse poids plume, ou au contraire, quelqu'un qui pèse 110 kilos, c'est le même phénomène de la matière. Mais c'est une matière toute différente. Alors, la matière, qu'est-ce qu'elle est au point de vue de l'être ? Elle est un intermédiaire de la substance matérielle et de la qualité. Elle est un être qui détermine par rapport à la materia prima, à la pure matière, à la substance matérielle. Elle a une détermination. Donc, il y a un certain être particulier, mais c'est un être qui, au point de vue détermination, demeure très potentiel, donc très indéterminé, demandant à être déterminé par autre chose que la matière. C'est vraiment ce qui nous donne le sens d'un être métaxu, intermédiaire. Et vous prenez toujours les deux extrêmes pour connaître ce qu'est la matière. L'extrême qualité sensible. La qualité sensible dépend de la matière. Et la matière, la quantité n'est pas la matière, mais elle est ce qui détermine en premier lieu la matière. Donc la quantité est un être qui détermine, il y a une cause formelle de la matière, de la quantité, et cette cause formelle de la quantité, c'est l'être divisible, l'être mesurable, l'être qui attend une détermination autre et qui permet cette détermination autre. La matière pure, la matière substantielle, la cause matérielle, elle est sans détermination. Pure matière, pure potentialité. Et donc, la première détermination dans le monde physique, c'est la matière. Et c'est une détermination qui est très particulière, puisque c'est une détermination qui, en elle-même, n'achève pas la détermination. En elle-même, elle est une attente à la détermination. La matière est déterminée par légère, le poids, lourde. Il y a une matière aérienne, il y a une matière lourde, parce que justement sa détermination reste une détermination quantitative, donc mesurable, donc potentielle, en attente à la détermination. La matière, vous pourriez dire, vous voyez, c'est un être commettre de purs désirs. Le désir n'existe pas dans la matière, mais on exprime métaphoriquement la matière. Un être de purs désirs qui demande d'être achevé, qui demande de se continuer. C'est un être intermédiaire. Et donc, l'intermédiaire, un être métaxu, nous fait vraiment comprendre ce que c'est que la matière. C'est un être qui est entre la substance matérielle et les qualités. Donc, c'est un être hybride par le fait même. C'est un être inachevé, essentiellement inachevé. C'est pour ça que quand on a une grandeur démesurée, ça fait très peur. Ce n'est pas humain, ce n'est pas mesurable, ça s'impose. Et ça s'impose, j'allais dire, d'une façon barbare. La matière a ça en elle, quelque chose qui s'impose brutalement et provoquant un peu, provoquer des terreurs. C'est vrai, quand vous voyez des blocs de montagne terribles qui piquent, qui penchent, la tour de Pise qui penche tout le temps, éternellement elle penche. On a peur de le recevoir sur la tête. Et ça, c'est curieux, hein. La matière, c'est quand même quelque chose de très phénoménal, parce que elle est inachevée, et c'est pour ça qu'elle est phénoménale, elle demande d'être achevée. Elle est un domaine qui est terrible. Je crois le terribilis, hein, le terrible, vient de la matière. Parce qu'au fond, tout ce qui est inachevé et qui réclame d'être achevé est terrible. Et sauvage. Et quelque chose qui n'est pas humain. C'est quelque chose qui vraiment peut nous affoler. La quantité pour elle-même, vous voyez, quand elle est inachevée, et on peut, aujourd'hui, ça fait partie d'un certain art, exprès de ne pas achever. Vous voyez, quand on présente des monuments aux morts, on essaie, par la quantité, de montrer que c'est inachevé, la vie est brisée. Donc, le domaine de la quantité, au point de vue être, étant donné que c'est un être intermédiaire, essentiellement intermédiaire, alors nous le disons divisible, mesurable, il est déterminé, mais il est inachevé. Il est déterminé, mais il est en attente. La quantité demeure en attente. Et c'est ça qui met l'être toujours en attente. Et vous arrivez quelquefois au point de vue architecture, au point de vue peinture, arriver à manifester ça. Normalement, la quantité ne se manifeste pas, puisqu'elle est toujours un métaxu, toujours un intermédiaire. Donc, étant toujours un intermédiaire, elle est là en attente de la qualité. Donc, elle ne se manifeste pas. Et les gens très volumineux n'aiment pas de se manifester. Ils essaient de se cacher. C'est très curieux, ça. Elle n'aime pas la qualité se manifeste. Et elle est la manifestation de l'être. Elle est la manifestation de la substance. Tandis qu'à quantité, elle n'est pas manifestation. Elle est attente. Attente de la qualité. Et quand cette attente est trop grande, elle est source d'angoisse. Et la quantité peut être source d'angoisse. Parce que cette attente demeure une attente. L'angoisse, c'est une attente démesurée. L'attente est juste, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Quand l'attente est trop forte, c'est l'angoisse. Eh bien, la quantité, elle est, par elle-même, elle est source d'angoisse. Parce que elle n'est pas mesurée. Et ce qui n'est pas mesuré peut alors être infiniment petit, infiniment grand. Il y a dans la quantité un infini potentiel au point de vue être. Et c'est ce qui explique combien elle peut être par elle-même source d'angoisse. Et on ne demeure pas dans la quantité. On essaie vite d'avoir la détermination. C'est la matière qui, par la quantité, manifeste. Elle ne manifeste pas, parce que j'ai dit la quantité ne manifeste pas, mais elle donne une présence. La quantité donne une présence, mais une présence pas glorieuse. Une présence lourde. Une présence pénible. Une présence qui ne soulage pas. Vous voyez qu'on est obligé, pour la quantité, de toujours prendre autre chose que la quantité pour l'exprimer. C'est en ce sens que je dis qu'elle est un intermédiaire, un métaxu, source de tous les autres. Alors, il y a un lien très curieux entre la quantité et l'imagination. Alors là, ça nous aiderait à comprendre beaucoup de choses dans la philosophie moderne. On n'a jamais manipulé autant la quantité. On fait des choses monstrueuses aujourd'hui, au point de vue quantité. On fait des choses monstrueuses. Tout essaie de dompter la quantité et de dompter la quantité en la manifestant pour que la quantité puisse montrer sa hauteur, son poids, sa grandeur. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans l'art aujourd'hui. C'est l'art avant, je dirais l'art classique. Et c'est un art de la physionomie, le portrait, en peinture, en sculpture, la tête d'un enfant, en sculpture. Et c'était la figura qui dominait. Or, dans notre art moderne, c'est la brisure de la figura pour montrer le poids, la grandeur de la quantité. Pour montrer la domination de l'homme sur la quantité. L'homme peut dominer la quantité jusqu'à un certain point. Est-ce que l'hubris des Grecs, c'est-à-dire l'orgueil, ne se manifeste pas toujours dans la démesure? Et la démesure se manifeste, du moins peut se manifester, peut exister grâce à la quantité. La démesure, c'est justement la quantité qui l'emporte. Et ceci, c'est l'imagination. Ce n'est pas le logos. Le logos cherche, au contraire, la mesure. Cherche à dominer tout ce qui est potentiel. Tandis que cette démesure dans la recherche de la quantité, c'est montrer le primat du potentiel. Le primat de l'indéterminé. Et ce primat de l'indéterminé peut aller très loin, puisqu'il n'y a pas de mesure. La seule mesure, ce sera dans l'intelligence, vous voyez, et ce sera le domaine mathématique. La seule mesure. Mais les mathématiques, étant donné que c'est une mesure de la quantité, peut très bien aller à l'infini, le nombre infini. C'est la démesure. Et c'est l'exaltation du primat de la quantité sur la qualité. Il y a, je crois, aujourd'hui, dans l'art d'aujourd'hui, dans l'art, je dis, dans le facere, hein, dans le facere humain aujourd'hui, il y a cette espèce de besoin de montrer la domination de l'homme sur quelque chose qui dépasse la mesure. Alors, le quelque chose qui dépasse la mesure ne peut plus être mesuré que par l'intelligence. Et ne peut plus être mesuré par la qualité physique. Et je crois qu'il y a beaucoup cela aujourd'hui. Parce que c'est une manière d'exalter l'intelligence, de montrer le primat de la quantité sur la qualité, et d'essayer de mettre ce primat en pleine lumière. Et quand on met cette quantité en pleine lumière, au fond, c'est pour exalter l'intelligence. C'est un orgueil. Ce n'est plus mesurable par la réalité existante, ce n'est que mesurable par l'intelligence humaine. Et c'est ça, la recherche de la quantité pour elle-même, au point de vue métaphysique, vous ne pouvez jamais rechercher la quantité pour elle-même, puisque c'est un métaxu. Et rechercher la quantité pour elle-même, c'est justement ramener l'être à la matière. Et cette recherche de la quantité pour elle-même, faire toujours ce qui est de plus grand, de plus haut, de plus imposant, de plus fort. C'est au fond une recherche orgueilleuse, parce qu'on ne veut plus que l'intelligence soit mesurée par la réalité, puisque c'est l'intelligence qui reste à mesure. Et c'est par la quantité on arrive à montrer le mieux visiblement, d'une façon palpable, on le touche la quantité. Le primat de l'intelligence. Ce serait une des formes, je crois, de l'orgueil de notre temps. Chaque époque trouve une manière de réaliser la tour de Babel. Et dans l'Écriture, il nous est montré cette tentation de l'homme de la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'était pas majestueux, sûrement pas. Cette époque colossale. Chaque époque essaie de trouver ça. Et là, c'est l'alliance de la quantité et de l'imaginaire. Et cette alliance de la quantité et de l'imaginaire fait qu'on trouve une joie très particulière de dompter la matière. Et cette joie particulière de dompter la matière, c'est d'isoler la matière du sensible. Le plus qu'on peut, on ne pourra jamais l'isoler complètement. Et mettre le sensible le plus loin possible, pour que ce soit l'intelligence elle-même qui mesure la matière. Vous voyez, c'est très subtil, mais ça nous fait bien comprendre ce que c'est que la quantité. La quantité, autrement dit, on pourrait le dire, est source de toutes les tentations. Parce que c'est un être débile, la quantité, c'est vrai au point de vue être, c'est assez débile, comparativement à la qualité. Mais puisque c'est un être débile, vous pouvez le gonfler et en faire votre être. L'homme ne domine pas sur l'être, il cherche par tous les moyens, mais on voit très bien, il voudrait une domination sur l'être. C'est pour ça qu'il désire à tout prix réaliser un être nouveau, un être humain qui ne soit pas classique. Mais réaliser ça par rapport à la vie, c'est impossible. Par rapport à la quantité, c'est possible. Mais le domaine mathématique, c'est l'exaltation de la quantité. La quantité est toujours double. Vous avez la quantité au niveau grandeur, la quantité au niveau nombre. Et la quantité au niveau nombre, c'est déjà une quantité qui est en correspondance, en union avec l'intelligence. Le nombre, c'est le fruit de l'alliance de la quantité et de l'intelligence. Le nombre. Et le nombre joue un nombre, joue une faveur très particulière, le nombre infini. C'est le nombre, c'est le fruit de la quantité et de l'imagination. Et par le fait même de l'intelligence liée à l'imaginaire. C'est ça le nombre. Et la séduction du nombre est très forte. Parce que c'est humain. C'est l'humain qui veut atteindre le divin. Il ne peut pas l'atteindre par l'être, mais il l'atteint par la quantité. Alors il y a une espèce de recherche extrêmement curieuse de la quantité liée à l'imaginaire. À l'imaginaire, à un imaginaire pas romantique. Faites attention, quand je parle de l'imaginaire, je parle de l'imaginaire mathématique. C'est-à-dire un imaginaire très habité par la raison. Un imaginaire qui est vraiment fils de la raison, mais qui reste quand même toujours lié à la quantité. La quantité étant justement un être essentiellement intermédiaire entre l'aspect substantiel et l'aspect qualitatif, étant essentiellement un être intermédiaire, le divisible, la virtualité, tout ce qui est intermédiaire. Cet intermédiaire peut être finalisé par la qualité ou peut être finalisé par l'intelligence humaine liée à la quantité. Les mathématiques finalisent la quantité et donne à la quantité une noblesse humaine et une grandeur humaine, en prenant mathématiques au sens le plus vaste, c'est-à-dire l'alliance de l'intelligence raisonnable, la raison, avec la quantité. Puisque précisément, la quantité n'est pas finalisée par elle-même. Puisque la quantité est un être qui n'est pas finalisé par soi-même, c'est ça le propre de la quantité. Elle n'est pas finalisée par elle-même. par le fait même, elle est finalisée ou naturellement par la qualité, ou intellectuellement par l'intelligence. Et l'intelligence mathématique finalise la quantité en lui donnant toute son ampleur. Vous voyez donc que la quantité, à ce point de vue-là, est très intéressante parce qu'elle nous aide à saisir le caractère propre d'une certaine grandeur imaginaire, donc un orgueil humain. L'orgueil humain s'installe dans la quantité parce que la quantité n'ayant pas de finalité, elle est propre à être finalisée par l'intelligence qui s'unit à l'imaginaire et qui prend la quantité comme ce par quoi elle peut se réaliser. Selon son bon plaisir imaginaire. Puisque c'est un être qui, par lui-même, n'a pas de cause finale. C'est un être qui attend. Ce que je vous dis, je crois que c'est l'être qui attend. Qui a soif, qui en lui-même et par lui-même reste donc dans cette attente quelque chose qui demande d'être mesuré, qui réclame ça. Et cette attente est peut-être finalisé, peut-être déterminé par la nature, le sensible, peut-être déterminé par l'imagination. L'imagination s'empare du divisible comme de sa proie. Et c'est l'imaginaire. Un imaginaire lié à l'intelligence, lié à la raison, qui peut s'en servir, qui peut le transformer, en faire quelque chose qui soit propre à l'homme. C'est donc quelque chose d'extraordinairement intéressant, la matière, la quantité. C'est une chose extraordinairement intéressante dans le monde d'aujourd'hui. Parce que vous voyez tout le temps comment cette quantité est utilisée. Comment elle est finalisée, comment l'homme trouve son jouet parfait d'homme, un jouet intelligent, un jouet rationnel, grâce à la quantité. Et je crois que c'est cela qu'on doit essayer de comprendre. Vous voyez, dans un art qui n'est plus entièrement un art, comme le cinéma, la quantité joue un rôle extraordinaire dans cet art-là. C'est un monde imaginaire qu'on donne comme un monde réel. Et on se laisse prendre. Parce que c'est là où, en quelque sorte, l'homme peut s'évader. Vous pouvez vous évader, ne plus vous occuper de la finalité, en restant dans ce monde de la grandeur, de l'élévation fausse, imaginaire. Mais il a quelque chose de réel, il a un certain fondement, il n'est pas purement imaginaire. Le fondement, c'est la quantité, c'est le divisible. Vous voyez ? C'est terriblement difficile de saisir le divisible pour lui-même. Parce que vous le saisissez en le déterminant, en le finalisant. Et dès qu'il est finalisé, il n'est plus la grandeur. Il est la grandeur en restant non finalisé, en attente. C'est le lieu par excellence de l'attente. L'être imparfait. Et l'être imparfait qui est capable de séduire l'intelligence, parce que l'intelligence peut y apporter une finalité. Sa finalité, qui n'est pas réelle. Donc, il faut bien regarder ce point de vue de la quantité qui risque toujours de séduire et d'empêcher de saisir la vraie finalité. C'est l'obstacle majeur pour saisir la vraie finalité. C'est l'obstacle majeur qui risque de nous arrêter, parce qu'elle a une emprise très très spéciale sur l'imaginaire. Cette emprise de celui qui attend d'être finalisé. C'est l'imaginaire, la quantité, c'est le pauvre de l'être, en quelque sorte, puisque elle est loin de la finalité, elle est tout proche de la substance matérielle, elle a un poids très grand, parce que elle risque de remplacer la cause finale. La cause matérielle, elle risque de l'empasser, elle veut le remplacer, et elle n'est pas cause matérielle. Et elle n'est pas finalité, elle est intermédiaire. Je crois que c'est cela qui est tout à fait propre à l'imaginaire, tout à fait propre à la quantité. Elle est l'objet préféré de l'imaginaire.